Certainement, mais c'est encore même plus subtil que ça, parce que quand c'est la voix d'une femme Maasai qui dit exactement la même chose, ou la voix d'un enfant Maasai, les éléphants ne sont pas apeurés non plus. Mmh. Et pour cause, les femmes et les enfants ne participent pas aux chasses à l'éléphant.
Donc ils distinguent la fréquence de la voix, c'est ça, hein. Et ils ont moins peur des voix aiguës, a priori.
Alors peut-être, mais encore une fois, c'est plus subtil que ça, parce que quand les chercheurs prennent l'enregistrement de la voix d'un homme Maasai et qu'ils la trafiquent pour la rendre aussi aiguë que celle d'une femme, quand on l'écoute, nous, on a vraiment l'impression que c'est la voix d'une femme, eh bien, les éléphants ont toujours aussi peur. Ils ne se laissent pas du tout berner par un simple changement de fréquence de la voix. Donc, ça veut dire qu'ils ont d'autres indices pour reconnaître les voix d'hommes et de femmes, et que les oreilles des éléphants sont décidément dotées d'une incroyable subtilité en ce qui concerne les voix humaines, donc encore plus subtiles que les nôtres.
Sophie, qui connaît bien la savane.
Non, mais je trouve ça exceptionnel, parce que pour mener l'expérience, les chercheurs ont posé des haut-parleurs dans la savane.
Et on les voit fuir. On voit les éléphants fuir sur la vidéo.
C'est un beau métier.
Axel, vous avez trouvé un drôle de microscope pour nous.
Mais oui, un microscope
est mort.
Ce soir, au café Le 3C Aix-en-Provence, dans la dynamique du repère précédent et de cette belle soirée riche en enseignements, le repère du pays d'Aix souhaite continuer à parler des Roms, discriminés parmi les discriminés, chez nous, dans notre ville et sous nos yeux. Alors une fois n'est pas coutume, ce soir ce sont des Roms qui seront nos invités d'honneur pour ce repère. Et nous allons faire ce qu'on fait dans la plupart des cultures lorsqu'on accueille et pratique l'hospitalité, apporter tous quelque chose à manger pour qu'on puisse partager ensemble ce repas et discuter d'humain à humain sur tout ce dont on a envie, eux et nous. Il y aura parmi eux des personnes qui parlent français, donc réfléchissez à vos questions d'ores et déjà et joignez-vous à nous ce soir à partir de 19h30 au café Le 3C au 23 boulevard Carnot à Aix-en-Provence.
Et ben voilà, c'est noté, on y sera. Enfin, vous y serez, vous irez. Bonjour, chers AMG. Aujourd'hui, on va vous jouer du lithophone. Lithophone. Vous savez ce que c'est le lithophone? Oui, oui. Eh ben, les tailleurs de pierre le savent, les tailleurs de pierre. C'est des gens qui ont l'oreille fine, parce que d'un coup de marteau sur la pierre, sur un bloc de pierre, ils savent tout de suite si cette pierre est bonne pour la sculpture ou pour la construction, pour faire des moellons ou du remblai. Ils savent ça tout de suite à l'oreille. Eh ben, ces gens-là savent que la pierre parle, et même qu'elle chante, et nos ancêtres préhistoriques, eh bien, le savaient aussi. Curieux tout ça, hein? C'est ce que dit Éric Gontier, qui est un chercheur que Guy Vanctil a rencontré, et qu'on va retrouver aujourd'hui avec des pierres très particulières qu'il a trouvées dans un tiroir du musée de l'homme, tout simplement, qui était enfoui comme ça, oublié. Et puis il s'est aperçu que ces pierres avaient une histoire et un pouvoir, et qu'elles étaient des instruments de musique remontant à entre 2500 et 8000 avant notre ère. Découverte passionnante. On pense que il y a eu la nuit des temps, vous savez, ça a commencé par la nuit des temps, et puis la sauvagerie, la barbarie, le feu, le fer, enfin, tout ça c'était sauvage, arriéré, et puis petit à petit c'est jusqu'à nous. Nous sommes les plus civilisés, évidemment, entre la préhistoire et Sarkozy, on voit les progrès extraordinaires accomplis par l'humanité. Ça vaut pour le temps. Mais dans l'espace, c'est la même chose. La plupart des autres sur cette planète sont plus ou moins sous-développés. Enfin, certains sont un peu plus... la plupart, quand même. C'est pour ça que nous avons, nous autres Français, une mission civilisatrice. Il faut que nous apportions les lumières. Et puis alors, nous, ici, à la radio, il faut qu'on vous apporte, à vous autres, les lumières. Nous avons aussi, nous autres, une mission civilisatrice. Il se pourrait bien que ça marche pas comme ça. Et il se pourrait bien que nos ancêtres très lointains étaient tout aussi civilisés que nous, peut-être davantage et peut-être autrement. Vous vous souvenez de cette émission qu'on avait faite avec Régis Debray sur la grotte Chauvet, sur ses peintures étonnantes, bouleversantes de la grotte Chauvet, qui disent une maîtrise de l'art plastique, du dessin extraordinaire, et qui n'a rien à voir avec quelque chose de primitif, de maladroit, bien au contraire. Il se pourrait bien que les instruments que nous allons entendre et que ce chercheur Éric Gontier a redécouvert relèvent de cette mise en question l'ailleurs et de du précédent, de l'autre fois. Pas mal, non, comme, comme sujet aujourd'hui. Joue-moi encore du lithophone. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et à tous. AMG Brétiliens et Brétiliennes, n'oubliez pas ce mercredi 12 mars à partir de 19h, au bar L'Entretemps à Liffré, le Café Repère qui aura pour thème Marina Leda, une utopie vers la paix. Nous visionnerons deux vidéos qui présentent cette expérience communale originale et puis nous en débattrons tranquillement devant un verre comme à l'habitude. Alors venez nombreux à L'Entretemps à Liffré à partir de 19h ce mercredi 12 mars.
Le buisson. Il vous faut tailler mon buisson, dit la princesse au jardinier. Mon prince, parti pour la baston, va me revenir énervé. Princesse, je connais le grigou. D'un jardin tenu, il se fiche. Iconoclaste dans ses goûts, il préfère les terres en friche. C'était le poète de circonstance. Salut.
Fonds international du développement agricole, Union européenne, UNESCO, Banque mondiale, des lieux de pouvoir et d'argent. Christian Folliot connaît bien ces endroits, puisqu'il y a été sollicité comme consultant en éducation et économiste spécialisé dans le secteur agricole. Il sera avec nous ce soir au repère de Bacalan. C'est à 19h30 au bar de la Marine, 28 bis rue Achard, à Bordeaux-Bacalan. A tout à l'heure.
Bonjour à tous les AMG, bonjour Daniel, c'est Pierre de Nantes. J'appelle à propos de la lutte des professionnels du spectacle vivant et de l'audiovisuel qui se battent depuis déjà plus d'une décennie pour que leurs droits sociaux ne soient pas massacrés. Alors à Nantes, on a inscrit ça dans un espace qui s'appelle le chapiteau Culture en Marche. Alors j'invite tous les professionnels, mais aussi tous les précaires, intérimaires, privés d'emploi, à venir sur nos
sessions. Comme le plus ancien instrument de musique connu.
1954.
C'était le fameux lithophone, c'est-à-dire un certain nombre de dalles de pierre servant d'instrument de musique à percussion. Eh bien, c'était tout simplement une découverte faite d'une façon brillante par Georges Condominas. Je vais lui demander de nous raconter cette découverte.
Eh bien, cette découverte a été assez fortuite. J'avais fait un peu de préhistoire et... je n'avais jamais entendu parler de pierres de cette taille.
Elles font combien à peu près?
Eh bien, la plus grande dépasse le mètre. Vous voyez, les plus grandes pierres
préhistoriques... Je signale, elles sont de taille décroissante puisqu'elles correspondent, nous allons le voir, à une gamme.
Vous comprenez?
Est-ce que vous vous êtes douté qu'il s'agissait d'un instrument de musique?
Eh bien, non, je ne suis pas musicologue. J'ai tapé simplement sur les pierres et j'ai entendu un bruit métallique.
Eh bien, le bruit, nous allons l'entendre répété au Musée de l'Homme...
Donc là, on se trouve devant la lithophonothèque, donc des pierres musicales. Voilà, donc je vous montre mon premier tiroir. Donc on parle de cylindres de pierre.
Là, c'est ça, c'est ces pierres-là, là.
Voilà,
ça c'est. Ah, c'est impressionnant, on dirait une espèce de gourdin ou de gigantesque concombre en pierre noire.
Voilà, exactement. C'était dans le couloir du Musée de l'Homme et on démarrait le récollement des collections. Donc, c'est-à-dire, on reprenait les inventaires avant le déménagement pour venir au Jardin des Plantes. Donc Odile Romain était à quatre pattes dans le couloir en train de sortir des grandes pierres, des molettes. Et elle sort le fameux Stradivarius qui était là, sombre, un peu poussiéreux. Et en passant par hasard, j'ai regardé la pierre, j'ai dit « Ah !» Ça m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse. Je sens que ce ne sont pas des pylons sahariens, ça c'est sûr. Le tout, c'était de comprendre à quoi ça pouvait servir. Donc j'ai sorti cette pièce, je l'ai amenée dans mon bureau, et là, j'ai commencé à taper dessus. Donc je l'ai posée par terre, voilà. On sent qu'il y a un son intéressant, qui n'est pas un bruit. Ça c'est un bruit. Celui-ci, voilà, quelque chose de plus. En la posant sur la table, voilà. Rien. Bon, je ne savais pas où j'allais. Je suis descendu dans les poubelles du Musée de l'Homme. J'ai sorti cette mousse jaune moche, voilà, qui est ici.
Ouais, c'est des trucs agglomérés, quoi.
Voilà, de la mousse agglomérée, donc pour faire circuler les œuvres sans les abîmer. Et je les ai posées sur la table. J'en ai posé deux. J'ai posé l'instrument dessus.
Comme ça, hein.
Voilà. Donc, voilà. Et là. J'ai tapé dessus, et là, c'était la surprise. Le son est sorti, et avec cette grande résonance derrière. Je dis, oh là 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 là, je viens de trouver quelque chose de formidable. Mais j'ai fait vraiment un bond en arrière. Et j'avais le cœur qui battait. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai quelque chose de formidable. Moi, je n'oublierai jamais la première fois. L'émotion était énorme et j'ai failli pleurer. Parce que je me suis dit, OK, je viens de découvrir, je crois, quelque chose d'extraordinaire.
Donc ça, c'est le plaisir de tout chercheur, quel que soit son domaine.
Ah, on n'est pas insensible à ce que nous faisons. Voilà. Et donc, je me suis dit immédiatement, il faut qu'on en trouve d'autres. Donc, je suis retourné voir Odile Romain. Je lui dis, où est-ce qu'il y en a d'autres? Elle me dit, à tel endroit, je sais qu'il y a des trucs qui ressemblent à ça, plus loin, il doit y en avoir d'autres. Et elle en a sorti, au départ, 7 ou 8. Et chacun d'un pays différent, parce que le Sahara, c'est grand. Et donc, on a sorti des pierres sans grande conviction. Et il se trouvait que les pierres choisies correspondaient à des lithophones. Le truc, c'était tout simplement qu'il fallait les poser sur un support relativement souple. C'est qu'un petit détail. Quand on le connaît, après on l'oublie, c'est tellement bête. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont travaillé plusieurs dizaines d'années sur ces pierres, pilons sahariens, et qui n'ont pas réussi à définir qu'il s'agissait d'instruments de musique. Ah, ils ont tout dit, hein, que c'était pas, ça servait pas à ça, pas à ça, pas à ça, etc. Mais pas une seule fois, ils ont pensé à cette dimension musicale.
Voilà, les lithophones, on en trouve aujourd'hui un peu partout. C'est un instrument pas très courant, mais enfin bien connu. Le plus étonnant dans le genre, c'est les musiciens qui jouent sur des stalactites dans des grottes. Vous savez, des stalactites qui tombent, là. Eh bien, on arrive à jouer... Des musiciens arrivent à jouer, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, la lettre à Élise qu'on a entendu là en commencement. C'est un jeu sur sonate pour le clair de lune, on est en train de me préciser, Franck me précise, c'est une sonate au clair de lune. C'est joué sur des stalactites dans des grottes avec des dispositifs très simples, mais on... Les musiciens taillent un peu la pierre pour obtenir les notes désirées. Et il n'est pas du tout interdit. Il est même, on est conduit à se dire que nos ancêtres, il y a 2000, 3000, 5000 ans, 8000, 10000 ans, probablement jouaient eux aussi sur ces stalactites. À quelle fin, quels airs.
La chance de pouvoir les jouer comme des véritables instruments de musique.
Parce que vous jouez de quels instruments normalement à l'Orchestre National de France?
Ah ben, nous sommes des percussionnistes classiques entre guillemets, donc on est aptes à jouer tous les instruments qui se jouent avec les baguettes et par extension aussi avec les mains. Voilà, donc notre panoplie régulière, c'est la caisse claire, le triangle, les cymbales, la timbale grosse caisse, clavier, le xylophone, le glockenspiel. Le glockenspiel, c'est un carillon qui sonne très aigu, qui fait une très jolie mélodie, voilà, qu'on entend. Voilà. Donc c'est ça notre panoplie habituelle. Donc on est amené à jouer beaucoup d'instruments nouveaux, dans le style de ceux qui sont là.
Ah oui, j'avais pas vu, c'est accroché.
Pardon, des tambours de frein.
C'est des tambours de frein qui sont accrochés par une ficelle.
Voilà, c'est ça. Des petits bambous, des petits coquillages.
Des rails.
Voilà, on peut...
Allez.
Et les planches, pareil, on pourrait penser.
Ouais, moi, je veux bien écouter, ça a les sens. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que ça fait de reprendre l'instrument d'un ancêtre?
Non, c'est vrai. J'y ai pensé pendant les répétitions, pendant les premières séances de travail. L'homme préhistorique qui le tenait sur ses chevilles dans le désert ou dans une grotte. Et le soir, au coin du feu, se faisait une petite aubade.
La guitare de l'époque.
La guitare folk de l'époque, en fait. Hein.
Voilà, on jouait au coin du feu.
Ouais, vraiment. Hein. C'est ça. Hein.
Mais c'est émouvant. C'est-à-dire que c'était des pierres sur des étagères et ça redevient ce que c'était.
Ouais, ça, c'est terrible. C'est terrible. Et elle dormait. Voilà. Elle dormait. Et là, on les fait revivre, ça, c'est très chouette. Et là, c'est comme une enclume. C'est un son qui n'est pas du tout minéral, c'est un son, un univers totalement nouveau, qui suscite beaucoup d'interrogations et puis qui développe beaucoup d'images. Et là, je dis, ouais, il y a quelque chose à faire vraiment. Essayons de trouver une façon de faire un spectacle, de faire un concert à travers ça.
Ah ben, on va y aller, non ?
Ouais. Je vais travailler un peu quand même.
Allez. Let's go.
Voilà. Rarement le mot inouï n'aura été aussi plein de sens. Inouï, ça veut dire qu'il n'a pas été oui. Tout pour Louis. Et extension du domaine de Louis. Aujourd'hui, dans Là-bas, si j'y suis, avec ce concert de pierre musicale datant du néolithique et retrouvé presque par hasard dans un tiroir du musée de l'Homme.
Voilà, nous on est prêts.
Voilà, la répétition a commencé, chacun s'est installé, le compositeur est en bout de table.
Ouais. C'est 15 ou 15
15. 6.
Ah oui.
On recommence.
15.
Sa chevelure brune, sa chevelure brune.
Elle installa la pierre sur ses cuisses et se mit à taper dessus. Elle allait sur ce tas. Du choc libéré un son clair et harmonieux. Elle frappa alors plusieurs fois de suite, et peu à peu, elle fut enveloppée de sons qui lui rappelaient quelque chose.
C'est bloqué.
Et c'est laquelle votre préférée de pierre ?
J'aime bien celle-là, la très grave. Elle est très belle. J'ai l'impression d'avoir une cloche, vraiment. Les autres sont jolies aussi, très.
Je m'arrête ici, moi. J'avais une mesure.
Elles sont très aiguës, mais celle-là, elle a une profondeur, elle a presque une certaine noblesse, comme dans une sorte de rituel, un petit peu. Ça. Ouais, j'aime bien.
On peut imaginer qu'elle a servi dans un rituel, justement.
Tout à fait, c'est là la force d'être là aujourd'hui, c'est l'imaginaire, en fait. On peut tout imaginer, effectivement. Tout de suite, on prend conscience de la qualité du son que ça peut offrir, en fait.
Mais, on n'avait pas mis au point un truc comme ça qui tournait.
Il est impressionnant celui-là parce qu'il est tout laid,
ouais,
tout rabougré. On dirait une espèce de vieille baguette desséchée.
Mais ils sonnent terribles, c'est vrai. Ils sonnent terribles.
Chaque pierre a son mode de résonance particulier, c'est assez singulier. Alors, il faut les apprivoiser. Voilà, celle-là, je commence, j'en ai à ma disposition, j'en ai 5.
Blocage. Le déblocage est en fait fait sous la pression des forces de l'ordre, puisque la direction du site avait appelé les gendarmes pour évacuer les grévistes qui réclamaient des hausses de salaire. Égalité parfaite entre les hommes et les femmes et les compétitions olympiques et paralympiques. Le ministère des Sports a fait inscrire au journal officiel aujourd'hui les primes qui seront versées aux médaillés des Jeux. Il s'agit pour la première fois de traduire à titre officiel et permanent la reconnaissance de la nation aux performances de ses sportifs. Le montant des primes, lui, en revanche, est fixé par un arrêté. 50 000 euros pour une médaille d'or, 20 000 pour une médaille d'argent et 13 000 pour le bronze. La France a ramené 15 médailles de Sochi et pour l'instant, aux Paralympiques, elle en a obtenu déjà 4. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Cette
semaine, tous les matins.
Le 7-9 de France Inter en vadrouille.
Vous nous écoutez.
En vadrouille.
En vadrouille. Nous venons vous voir.
5 matinales spéciales.
Avec Patrick Cohen.
Le 7-9 part à la rencontre de celles et ceux qui font le tissu de notre pays.
Bienvenue. Bienvenue.
France Inter.
En vadrouille.
Dès demain.
Bienvenue.
Retrouvez la matinale de Patrick Cohen en direct du soir, en partenariat avec La Montagne.
Nous serons auprès de vous, au plus près des citoyens, toute la semaine dans la matinale de France Inter.
Le 7-9 de France Inter.
Vous nous écoutez.
France Inter.
En vadrouille.
Nous venons vous voir.
Et aussi les reportages, les vidéos, les coulisses du 7-9 en vadrouille sur franceinter.fr.
France Inter.
Bonjour Frédéric Loudéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour une autre page d'information.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon.